Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle Léna Grimbert. Je suis actuellement doctorante à l'Université de Rouen au sein du laboratoire du GRIS. En parallèle, je suis éducatrice spécialisée de formation. Et actuellement, je donne des cours en tant que vacataire de l'enseignement à l'Université de Caen sur les pratiques professionnelles du travail social. Voilà. Je suis en thèse depuis 2022, décembre 2022. Et je poursuis mon travail de recherche sur le centre d'éducation de Tatiou. Je m'intéresse surtout au sujet des expérimentations et des transformations de la prise en charge des jeunes qu'on disait inadaptés sur toute la période de fonctionnement du centre, donc de la seconde guerre, enfin, la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux années 80. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet?
Alors pourquoi je me suis intéressée au sujet? Déjà, de manière très personnelle, je connais Tatiou depuis l'enfance. J'ai de la famille dans le secteur. Ensuite, j'ai jonglé sur mon parcours professionnel et de formation entre l'histoire et l'éducation spécialisée. Donc j'ai d'abord fait une licence et un master en histoire. Ensuite, je suis partie en formation pour obtenir le diplôme d'État d'éducatrice spécialisée. Puis j'ai travaillé en tant qu'éducatrice de nombreuses années. Et puis ça me manquait de travailler sur l'histoire, puisque c'est ma passion. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'intéresser à l'histoire du travail social, parce que je trouve que bien que ce soit de plus en plus étudié, c'est assez ignoré, en tout cas par le grand public. Et je constatais dans les différentes associations où je passais que l'histoire des structures était peu ou mal connue, ou même complètement non abordée. Pas forcément parce que c'est pas intéressant, mais tout simplement parce qu'on n'a pas le temps quand on est travailleur social. Et donc, voilà, j'avais envie d'étudier une structure peut-être mal connue. Et en fait, j'ai pensé à Tatiou, puisque c'est pas forcément un aspect de l'histoire du lieu qui est très connu. Et en fait, de fil en aiguille, chose que j'ignorais, je ne sais pas pourquoi, j'ai appris que le frère de mon grand-père avait été éducateur sur Tatiou. Mais en fait, j'ai fait le lien en reprenant les noms des différents acteurs. Cet éducateur était marié à la fille de Camille Béliard.
D'accord.
Donc finalement, j'ai un lien quand même personnel avec le centre. Mais ça, je l'ai appris tardivement.
Ok.
J'avais pas forcément fait le lien immédiatement, donc c'est intéressant. Donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder, que j'ai présenté à mon laboratoire et qu'ils ont trouvé très intéressant. Et comme c'est un centre qui est assez particulier en termes de recherche, là où c'est vraiment riche, c'est qu'on est sur une période de charnière de presque création du métier d'éducateur, jusqu'à une période de grosse, forte transformation dans les années 60, 70, puis 80, où il y a vraiment une rupture entre guillemets, l'ancien monde du travail social et le nouveau monde du travail social. Alors, c'est des termes un peu extrêmes, mais voilà. Et bon, je n'ai pas abordé tout de suite, mais c'est un lieu qui est à la fois très unique par essence. Et en même temps, on trouve un cheminement avec des problématiques ou des expérimentations qui sont similaires à ce qui a pu se faire ailleurs. Avec évidemment des spécificités, à la fois du fait du lieu, du fait du public et du fait des professionnels qui sont venus.
Alors,
Voilà.
comment on doit l'appeler alors déjà? Est-ce que c'est un centre de rééducation, une maison de correction? On entend plein de termes différents. C'est quoi sa dénomination?
Alors, le terme, de centre de rééducation, maison de correction, bagne, on entend même. C'est assez intéressant parce que moi-même, je me suis retrouvée en difficulté. Quand j'ai dû la première fois inscrire mon sujet de thèse, c'était vraiment au tout début de ma recherche. Et donc, moi, je me suis basée sur un terme que j'ai retrouvé aux archives départementales, qui était le centre d'éducation par le travail. En fait, en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est plutôt collège d'enseignement technique. Donc, je pense que le sigle, il a été réinterprété, parce que le centre d'éducation par le travail, je ne l'ai pas forcément retrouvé partout. Centre de rééducation, on le trouve beaucoup à l'ouverture du centre. C'est l'idée, c'est typique de l'époque. On se retrouve à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec des jeunes qui se trouvent en situation de séparation avec leur famille, ou alors en situation de délinquance, du fait de la guerre, clairement. Et donc on a cette idée de rééduquer, parce qu'on a un problème d'éducation initiale, hein, comme on l'entendait à l'ancienne. Par la suite, ça a évolué, et en fait, finalement, ça prend vraiment le terme, la dénomination de centre d'enseignement technique, de collège d'enseignement technique, pardon, puisque par la suite, les jeunes peuvent passer un CAP. Et donc là, c'est vraiment, c'est officiel, quoi. C'est un terme que l'on, enfin, c'est une dénomination que l'on obtient du fait de, je me perds dans mon explication, de par, c'est l'éducation nationale en fait qui donne ce label, enfin, le droit de s'appeler collège d'enseignement technique du fait de passer le CAP.
C'est quoi alors, si on essaie de résumer les grandes dates un peu de ce centre entre l'après-guerre et les années 80?
Alors, création pure et dure, 1948, du centre. Le premier accueil, finalement, se fait en 1949, puisque, évidemment, il faut réaménager l'île. Hein. Faut imaginer, à la sortie de la guerre, ça a été occupé par les Allemands. C'est pas un lieu qui est adapté immédiatement à l'accueil des mineurs, bien qu'il y avait l'école de plein air avant. Mais du fait de la guerre, du fait de l'occupation, et puis les lieux sont abîmés ou vétustes, donc il y a un besoin de réaménagement. Date que je trouve intéressante, début des années 50, particulièrement 54, avec l'acquisition du hameau de Salagosse, dans le Gard, qui permet aux jeunes l'été de partir appliquer ce qu'ils ont appris pendant l'année en termes de formation professionnelle. Et puis aussi, ça fait office de vacances, puisque l'été, les jeunes doivent partir pour laisser place aux colonies de vacances qui ont lieu à Tatiou. Et puis par la suite, en fait, le lieu est tellement bien réaménagé par les jeunes qu'on trouve que c'est intéressant de pouvoir faire un roulement au cours de l'année. Et en fait, ça devient un lieu d'application. Et par la suite, ça devient un centre à part entière. Donc voilà, pour faire dans la longueur sur Salagosse. La dernière date que je mettrai en avant, c'est 84, la fermeture du centre. En fait, j'ai pas de date précise assez intéressante à présenter entre les deux, parce que c'est un vrai cheminement dans les transformations qui ont lieu au centre. Moi, j'ai repéré surtout des décennies, avec initialement la période entre guillemets de Camille Béliard et par la suite Monsieur Lacroix, avec peut-être les premières vocations du centre, très humanistes et très portées sur la volonté de réinsertion par le travail, du fait que les jeunes puissent acquérir des valeurs, se sentir réexister par le biais du travail, ce qui était très lié à son époque. Après, on sent que dans les années 60-70, ça commence à se modifier, particulièrement dans les années 70, où forcément le public change, à la fois des jeunes, mais aussi des professionnels, avec différentes problématiques, différentes façons de voir les choses. La formation d'éducateur, enfin, travailleur social devient, se professionnalise et devient de plus en plus cadré. On est aussi en pleine période de révolte sociale de manière globale. Et puis, en fait, on sent que dans les années 80, il y a une sorte de perte de sens, à la fois de la part des professionnels. Le public n'est plus là. On a moins d'orientation vers le centre pour les placements, donc on a moins de prix de journée. Et on sent qu'à la fin, on essaie de faire de tricoter quelque chose avec des profils qui sont pas forcément adaptés au centre, enfin, en tout cas, la vocation première. Et finalement, bah, ça mène à la fermeture parce qu'on n'y trouve plus de sens. En termes économiques, ça ne fonctionne plus. On n'oriente plus personne. On est dans une période où on ne place plus les jeunes sur des structures de ce type qui sont fermées. On est plus sur du milieu ouvert ou en tout cas sur des centres qui sont plus en centre-ville ou sur des zones un peu plus fréquentées pour faciliter l'insertion. Donc en fait, il n'y a plus trop de sens sur le centre. Bien qu'à la fin... je dévie un peu, mais on sent qu'il y a une tentative quand même de sauvegarde, mais ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qu'on y faisait vraiment dans ce centre? C'était quoi les formations, la technique? Qu'est-ce que faisaient les jeunes?
Alors les jeunes en formation sur le centre, J'avais à la fois une formation évidemment générale, hein, il suivait des cours comme une scolarité qu'on pouvait trouver en dehors du centre. Et puis en termes de formation technique, on était principalement sur des métiers du bâtiment, ou en tout cas assimilés. Donc vous aviez tout ce qui est de maçonnerie, ferronnerie, menuiserie. On pouvait trouver aussi par la suite tout ce qui était de l'ordre des espaces verts. Il y avait la peinture. Voilà, c'était ce qu'on retrouvait de manière très classique en fait dans les centres de ce type, sachant que l'idée c'était qu'on favorisait la formation sur des métiers qu'on imaginait facilement, qui permettaient une insertion plus facile à la sortie de la formation, à la fois d'après-guerre, parce que avec la reconstruction évidemment c'était des métiers pertinents, et par la suite ça reste quand même des domaines où on a tendance à avoir toujours besoin de professionnels. Sachant que on avait toujours cette idée de on forme les jeunes à ces métiers, mais ça ne veut pas dire qu'à la sortie, ils vont travailler dans ces domaines. L'idée, c'était surtout qu'ils aient un diplôme et aussi qu'ils aient conscience de leurs compétences. Comment ça s'appliquait concrètement? Alors, il y avait des cours, mais il y avait aussi la volonté que ce soit utile et qu'ils se rendent compte de la pertinence de leur travail. À la fois parce que, bah, comme dans ce genre de formation, il y a des productions matérielles, et aussi parce qu'on leur faisait travailler sur des, on les faisait pardon, travailler sur des chantiers, à la fois sur l'île, donc la rénovation, les digues, la tour, par exemple bah, les maisons dans lesquelles, les bâtiments dans lesquels ils vivaient au quotidien, les salles de classe, etc. Les rénovations, c'était souvent eux, pas que, mais ils pouvaient participer. Et puis aussi en dehors, c'est-à-dire qu'au niveau local, les jeunes pouvaient venir sur des chantiers, participer à la construction, à la rénovation, à la réparation de lieux. Aux archives départementales de la Manche, on peut trouver par exemple des photographies des jeunes qui ont participé à un chantier sur un, je ne sais plus exactement la dénomination, mais un centre scientifique, je ne sais plus exactement. Vous avez aussi, on peut retrouver la trace de chantiers très simples de rénovation, de fabrication de barrières, de portes, etc. au niveau local. Donc c'est assez intéressant. Parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir prouver à la population locale que les jeunes étaient capables d'eux et c'était pas le cliché des délinquants, etc., etc.
Justement, le regard des habitants d'ici, parce que j'ai souvenir dans les témoignages que j'ai écoutés, il y avait notamment, je crois, le dimanche, des fois la sortie au cinéma, voilà, et donc du coup ces jeunes arrivaient ici, voilà, c'était pas toujours facile. Quel était le regard des habitants?
Alors, le regard des habitants, il est le même qu'on pourrait retrouver aujourd'hui sur le regard des habitants sur ce type d'établissement, surtout les centres éducatifs renforcés ou fermés, avec une ambivalence entre réticence, crainte et l'habitude de désigner les jeunes comme responsables quand il y a des faits de délinquance, de dégradation, etc. Et en même temps, une certaine sympathie, une certaine affection, très liée de fait bah, au comportement et à l'intégration des jeunes du centre sur le territoire local. Ce qu'on peut retrouver qui est hyper intéressant, c'est qu'à Tatiou, il y avait une équipe de foot. Et les jeunes étaient assez doués. Et finalement, ils ont intégré l'équipe de foot locale. Et ils étaient vraiment très appréciés. Et quand il y avait des matchs, là, on sentait une certaine affection, une certaine fierté à se dire, oh, les gars de Tatiou, bah, ils sont bons, voilà, ils sont sympas, etc. Et il y avait aussi des représentations. Par exemple, de théâtre, de musique, des petits spectacles qui pouvaient être organisés. Et là, c'était valorisant. Les jeunes étaient bien perçus. Par contre, effectivement, il y avait aussi les jeunes qui venaient au cinéma le dimanche, qui sortaient au bal, des fois, à l'époque. Alors ça, c'est plus ancien. Et évidemment, bah, ça reste des jeunes. Donc il y avait bah, des fois des faits de délinquance ou beaucoup aussi bah, des jeunes garçons de cet âge-là qui aimaient bien fréquenter les filles, donc aussi consommation d'alcool quand on allait au bal ou autre, alors même si c'était pas autorisé, évidemment, ça avait lieu. Et de fait, il bah, y avait forcément un regard plus négatif de la part de la population, J'ai retrouvé dans les archives aussi des rapports de police sur des fugues, sur des dégradations, des vols, etc. Forcément, là, ça renvoie une image plus négative de la part de la population. Donc voilà, on a cette ambivalence qu'on peut retrouver, comme je dis, aussi de nos jours, en fait, sur les jeunes dans ce type d'établissement.
Alors, parlons maintenant des publics, parce que, voilà, y a dans ce centre de Tatiou, un public orienté plutôt par l'aide sociale à l'enfance, et puis un public qui vient plutôt du milieu de la justice, qui sont placés par la justice. Comment ça fonctionne et comment ça s'explique déjà de ces deux types de publics dans le sein du même lieu ?
Alors, pourquoi deux publics issus de l'ASE, enfin, de l'aide sociale à l'enfance et orientation justice ? Déjà, initialement, c'est du fait de l'ouverture du centre. Clairement, il y avait un besoin à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On s'est retrouvé dans une situation où on avait des lieux pour accueillir, enfin des espaces pour accueillir les jeunes enfants. Donc souvent c'était en nourrice ou en orphelinat. Et pour les jeunes filles, on était sur des établissements religieux type Bon Pasteur ou autre. Jeunes garçons, dans le secteur, on n'avait rien. Et finalement, il y avait ce besoin à la fois pour des jeunes qui se retrouvaient en difficulté dans leur milieu familial, parce que absence de parents ou parce que prise en charge inadaptée. Et on avait aussi, du coup, ces jeunes délinquants, du fait de la guerre principalement, pas que, mais souvent c'était très lié, évidemment, hein, situation économique et sociale faisant que. Donc en fait, dès l'ouverture, on a ce besoin qui se présente à ces deux publics. On a au début surtout des orientations locales, donc ça va être plutôt Normandie, voire région parisienne. Bretagne aussi, ça pouvait aller assez loin. Et puis progressivement, au fil des années, en fait, on a une orientation qui devient nationale, en fonction d'eux. Sachant que progressivement, le centre, il a une réputation d'être un lieu assez dur. Et donc, au fil des années, et ayant de moins en moins d'orientations de jeunes, entre guillemets, avec des situations plus simples, on va orienter des cas qu'on disait, entre guillemets, encore une fois, plus difficiles, surtout vers la fin, où là, on se retrouvait soit avec des jeunes qui avaient déjà intégré différents établissements et avec qui ça ne fonctionnait pas, donc avec un parcours assez compliqué, ou soit avec des jeunes issus de beaucoup d'immigration. Et sur la fin, on avait aussi des réfugiés. Bon, c'est assez connu, on peut retrouver facilement l'information, mais les boat people, par exemple. Mais clairement, c'est là où on voit l'idée de, il n'y a plus trop de sens par rapport à la vocation éducative du centre, puisqu'on finit par, un petit peu par, entre guillemets, accepter tout le monde. Donc voilà, les profils changent, sachant qu'aussi, dans les années 70, les profils des jeunes changent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la question de l'âge, puisque la majorité change. Et donc, ça modifie aussi la prise en charge. Là où on avait plus de temps auparavant, jusqu'à 21 ans, pour faire l'accompagnement, là, on se retrouve réduit à 18 ans. Alors, on peut faire des demandes de dérogation pour que le placement dure plus longtemps, mais ce n'est pas toujours accepté. Donc, le temps est réduit. Donc, pour la formation, pour tout l'accompagnement social et éducatif, ça devient plus restreint. Et puis, les valeurs des jeunes changent. Là où avant, on sent vraiment les pratiques éducatives inspirées du scoutisme, ça change parce qu'en fait, à partir des années 60, surtout 70, je veux dire les termes, les jeunes s'en foutent du scoutisme, c'est plus du tout l'idée. On se retrouve plus sur la création des cultures jeunes, avec l'idée de la bande de copains, etc. Donc voilà, les valeurs ne correspondent plus. Et la prise en charge doit se modifier. Et on sent une petite difficulté des professionnels à s'adapter, du coup, aux nouveaux jeunes, entre guillemets.
Ces professionnels, justement, alors c'était quoi leur profil de ces encadrants qui sont là aux prémices un peu de ces métiers d'éducateur ? Il n'y a pas forcément de formation qui existe. Petit à petit, ça se met en place. Qui sont ces premiers encadrants de Tatiou ?
Les premiers encadrants de Tatiou, on est sur des profils assez intéressants, beaucoup issus de l'éducation nationale et du scoutisme. En termes de, alors là, je parle de l'équipe soit encadrante direction ou soit éducateurs, mais en termes d'enseignement, on a aussi des professionnels, des artisans locaux qui viennent et qui n'ont pas du tout de formation forcément de professeurs, hein, d'enseignants, mais qui viennent sur le centre. Donc c'est intéressant parce qu'au final, on est vraiment dans les prémices, on sent que ça tâtonne, qu'on expérimente, on teste des choses. Et en fait, on construit l'accompagnement avec les jeunes. Donc finalement, les jeunes sont aussi, sans le savoir, sans le vouloir, à l'initiative de la construction des pratiques, etc. Après, effectivement, ce qu'on retrouve dans l'histoire du travail social, hein, on a une professionnalisation du métier d'éducateur ou assimilé, évidemment. Et progressivement, donc les profils changent. On a quand même beaucoup, beaucoup d'éducateurs stagiaires. Très peu de salariés formés et diplômés. On en a, mais beaucoup moins. Et en fait, il y a un très fort turnover. Et ça, c'est assez difficile. C'est-à-dire que les conditions de vie sur l'île font que c'est très particulier. Il faut accepter soit d'habiter localement et de faire l'aller-retour en bateau, ou soit de venir habiter sur l'île en fonction des logements disponibles, où c'est pas forcément très confortable, où il n'y a pas forcément de place, où il faut accepter de vivre sur son lieu de travail, où il faut accepter aussi d'être séparé de sa famille, si on en a, par exemple. Donc c'est pas toujours évident. Comme il y a beaucoup d'éducateurs stagiaires, et bah forcément, le turnover est impliqué par le statut, puisque tous ne restent pas après l'acquisition de leur diplôme ou partir d'autres stages. Donc voilà. Et puis, sur ces éducateurs stagiaires, quand on voit leur parcours de formation, souvent, initialement, ils ont une autre formation qui n'a rien à voir. Je pense, par exemple, j'avais trouvé un dossier de salarié, un éducateur stagiaire qui initialement travaillait dans la banque, par exemple, ou en tant qu'électricien, ouais, il fait vraiment tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans un travail c'était un mémoire, je crois, sur un établissement de Rouen, j'ai trouvé la mention d'une éducatrice qui avait été embauchée immédiatement parce que sur son CV, il indiquait qu'elle a été stagiaire à Tatiou. Et donc, on s'est dit, si elle est passée à Tatiou, elle sait tout faire, elle est rodée, elle saura. En plus, c'était un établissement avec des jeunes garçons où on était réticents à prendre des femmes. Et donc, on s'était dit, si elle a travaillé sur Tatiou, c'est bon, elle peut venir bosser ici. C'était un gage de compétences.
Tu parlais à l'instant des conditions de vie difficiles qui ont amené un turnover des professionnels. Ces conditions de vie, là, en général, pour les jeunes également, elles avaient l'air très difficiles. En tout cas, au tout départ, ce n'était pas des conditions idéales. On parle de l'eau saumâtre, on parle d'humidité.
Alors, au niveau des locaux, c'est une question qui a été très compliquée et qui s'est. En fait, qui a. La problématique de l'aménagement de l'île s'est poursuivie très très longtemps. Il y a eu la question effectivement de l'eau potable, puisque en fait on devait faire venir en bateau de l'eau potable. L'eau, on ne pouvait pas la consommer sur place, il y avait un puits effectivement, mais pouvait être utilisée. Pas pour la consommation, clairement. Surtout qu'il faut garder en tête qu'il y avait à la fois ce besoin pour les jeunes, pour les professionnels, mais aussi pour la cuisine. Donc ça demandait énormément de ravitaillement. En termes d'électricité, au début c'était un générateur. Il faut savoir que pour pouvoir aménager l'arrivée en eau et l'arrivée en électricité, ça demandait des financements et des autorisations de tellement de personnes, enfin d'entités différentes. C'était très compliqué. De la même manière, les locaux, il y avait ce qui était préexistant, mais très abîmé. Donc, on a dû construire différentes maisons, baraquements, etc. Aujourd'hui, il y a des locaux qui n'existent plus, mais il y avait beaucoup de préfabriqués. Donc, ça s'est construit tout au long, hein, du fonctionnement du centre. Il y avait la question des sanitaires aussi, parce qu'il y a l'écoulement, des eaux usées, etc. Enfin. Ce qui était très très compliqué en termes d'aménagement, c'est qu'en fait l'île appartenait à différentes entités. Donc il y avait le littoral, il y avait l'éducation nationale, il y avait le ministère des armées, enfin de la défense, je ne sais plus sous quel terme, en fonction des décennies, on le dénommait. Et en fait, à chaque fois, quand on voit. Et il y a aussi la commune de Saint-Va. Et donc, dans les archives, à chaque fois qu'il y a un besoin d'aménagement, on voit un échange des courriers où, non, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser, c'est à tel service. Alors, on voit qu'on se renvoie quand même un peu la balle, des fois. Et puis après, sans parler forcément de mauvaise volonté à vouloir financer ou aménager ou quoi que ce soit, il y a aussi la vraie question de on ne sait pas forcément qui gère quoi. Donc, c'est très particulier et... Et puis, en parallèle, effectivement, tout ce qui relève de purement l'utilisation pour le centre, par exemple, l'aménagement d'un lieu pour pratiquer le sport. Là, ça va être l'éducation nationale qui va s'en charger. Mais il faut quand même le droit d'aménager dans l'enceinte de l'île, quoi. Donc c'est assez intéressant, sachant que tout ce qui était à l'intérieur de l'enceinte du lazaret, l'éducation nationale avait ce droit quand même de... plus facile d'aménager et d'utilisation. Mais quand même, ça a interrogé beaucoup de choses. Ça a été très très tardif, hein, l'arrivée en eau et l'arrivée en électricité, c'était pas au même moment, mais ça a été très tardif. Donc très longtemps, les conditions de vie n'étaient pas forcément évidentes. Et puis en plus, bah, on reste quand même sur une île, donc il y a le vent, il y a la pluie, il y a l'érosion, il y a les tempêtes, enfin voilà, il y a tellement de choses. Et puis il y a aussi le fait d'être dépendant de la marée, pour venir ou repartir. Et ça pouvait jouer aussi, sachant que bah, au début, on n'avait pas forcément beaucoup de matériel. Donc, il y a eu différents bateaux. Il y a eu aussi différents véhicules. Alors, j'ai plus le modèle exact en tête, mais je sais qu'il y avait une période où c'était un camion issu de la Seconde Guerre mondiale, quoi, un vieux camion qui servait à faire l'aller-retour aussi à marée basse. Et tout était un peu aménagé comme on pouvait pour transporter les jeunes et les professionnels. Donc j'ai interrogé un d'anciens directeurs du centre. Et on m'expliquait que c'était très courant que certains professionnels arrivent en retard et donc ne pouvaient pas traverser ou se retrouver coincés. Enfin, c'était compliqué, quoi. Donc y avait ça aussi. Donc...
c'est vrai, c'est ça, je sais plus, une dame qui a travaillé sur l'île et qui il revenait faire des courses. Mmh. Et puis elle dit, ouais, je sais pas, je venais d'avoir un enfant et tu rates le bateau, donc tu dois attendre 2 heures au bistrot. Et donc je pense qu'ils avaient dû rester, je crois, 4 ans, tout, je sais plus. Mais après, à la fin, c'était une de vie compliquée. Parce que, alors, il y a cette dépendance au continent, mais il y a aussi une vie un peu en autarcie. Alors, on m'a parlé d'une ferme qui avait des vaches, qui avait des cochons, qu'on faisait son pain. Là, c'était un peu une petite ville, Tatiou, pendant un moment, en tout cas.
Bien sûr, oui. Il y avait effectivement cochons, vaches, il y a eu des chevaux. D'ailleurs, au tout début, c'était même un cheval qui permettait de faire la traversée à marée basse. Hein. Mais sur la fin, ça a fini par péricliter. Mais c'est vrai que c'était un avantage de pouvoir produire sur place les légumes, le lait, etc., etc. Sachant que on retrouve même de la vente en fait vers l'extérieur. Il n'y a pas que de la consommation sur place. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, visiblement, de ce que j'ai trouvé, pas de formation sur ces métiers pour les jeunes, ce qui aurait pu, mais non. Dans les témoignages d'anciens jeunes, on retrouve souvent aussi de temps en temps un petit peu de pêche, mais ça c'était plus pour du passe-temps que quelque chose de réellement établi. Mais du coup c'était quand même consommé, donc assez intéressant aussi. Donc il y avait... effectivement, cette volonté de pouvoir produire sur place. Je suis pas sûre qu'on puisse parler d'autarcie quand même, parce qu'il y avait beaucoup de dépendance au continent, et puis il y avait quand même beaucoup d'allers-retours hein, au quotidien. Alors, il y a pour les professionnels, mais même pour les jeunes, finalement, il y avait assez régulièrement des liens avec le continent. Donc, voilà. Et puis, il y avait aussi des intervenants extérieurs qui pouvaient venir. Pour, par exemple, aussi, quand je parlais tout à l'heure de spectacles, de représentations, des fois, ils faisaient venir aussi des personnes pour des représentations. Il y avait les familles qui pouvaient venir, des jeunes, quelquefois, avec autorisation. Et puis, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai perdu. Je sais plus, tant pis. J'avais une chose intéressante, ça va me revenir plus tard, peut-être.
Parce qu'après, donc toi, tu disais que tu avais pu t'entretenir avec des professionnels, mais aussi peut-être des anciens jeunes, des anciens pensionnaires. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces entretiens que tu as pu avoir avec ces jeunes qui, plus de 40 ans plus tard, racontent un peu leur passage à Tatiou?
Les anciens jeunes ont des regards très différents sur le passage à Tatiou. Alors, on retrouve quand même une réelle différence en fonction des décennies. On sent que, en fonction des courants, j'allais dire pédagogiques, mais pas que, je pense que c'est à la fois en fonction des professionnels et de l'évolution du travail social et de la société, on n'a pas les mêmes ressentis. Après, il y a évidemment les ressentis propres à chaque jeune. C'est assez particulier parce que dans les premières décennies, on retrouve beaucoup de courriers d'anciens jeunes dans leurs dossiers, dans les archives, qui vont écrire au directeur, à la directrice, enfin à la femme du directeur, après leur passage. On retrouve une forte affection, une très très forte affection, avec vraiment une notion presque de parentalité. Par exemple, je pense à la période de Camille Béliard, où on retrouve des courriers d'anciens jeunes qui s'adressent à eux, Papa Béliard, Maman Béliard. Donc il y a vraiment un fort lien qui s'est créé. Ça a duré assez longtemps, avec souvent une volonté de revenir, beaucoup de nostalgie. On retrouve aussi le journal des anciens. Ça, on peut retrouver aussi aux archives départementales, où c'était un petit journal qui était produit sur l'île par les jeunes et des éducateurs, mais surtout rédigé par des jeunes. On retrouvait la description des quotidiens des jeunes qui faisaient des petits textes pour expliquer comment se déroulait la vie sur l'île, et toute une partie qui s'adressait aux anciens jeunes, où les anciens jeunes pouvaient aussi écrire, donner de leurs nouvelles, leurs adresses, etc. Et donc là, on retrouve forcément un vrai lien, une forte affection envers le lieu, envers les professionnels. Néanmoins, il y a évidemment des personnes qui en gardent une mauvaise expérience, à la fois parce que un placement, c'est pas rien non plus. Enfin, un enfant placé a vécu ça comme une expérience traumatisante. Il faut pas oublier aussi que les jeunes entre eux, ils sont pas toujours très tendres. Donc il y a des actes réellement violents qui peuvent se passer. Les pratiques aussi professionnelles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc on ne se permettait pas forcément les mêmes choses en tant que professionnel envers les jeunes. On le retrouve dans le livre de témoignage de Camille Béliard, par exemple, clairement, il exprime des fois avoir eu des gestes violents envers les jeunes, mais c'était quelque chose qui était normal. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, parce que j'ai retrouvé également dans les archives le renvoi d'un professionnel qui avait été trop violent envers des jeunes. Donc ça existait, il y avait de la violence de la part de professionnels. Alors, il y a quand même une... Donc ça nuançait, c'est-à-dire qu'il y avait ce qui se passait à l'époque qui était vu comme interdit, et il y avait ce qui était accepté, et puis les choses ont pu évoluer. Point intéressant par rapport à ce renvoi, donc c'était un professionnel qui avait... frapper des jeunes qui considéraient comme avoir eu un comportement inadapté envers une autre professionnelle. On a considéré que c'était trop violent et que ça n'avait pas à avoir lieu. Il a été renvoyé, il est parti au prud'homme, finalement on lui a donné raison. Donc c'est là où c'est. Voilà, ça représente quand même qu'est-ce qu'on considérait à l'époque comme adapté ou non. Après, il y avait la façon de renvoyer aussi qui rentrait en compte, où je pense que ça n'avait pas été respecté en termes de droit. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, alors, j'ai pas d'éléments spécifiques sur ça parce que, en fait, j'ai du mal à me prononcer sur la question parce que j'arrive pas à retrouver d'éléments dans les archives pour l'instant. J'espère réussir. Mais il y avait aussi, j'ai entendu à plusieurs reprises le sujet de sévices sexuels, de maltraitance, d'agression sexuelle sur des jeunes de la part d'un ancien directeur. Mais là, je ne peux pas en dire plus et j'ai pas non plus, je vais pas désigner un nom ou quoi que ce soit parce que j'ai rien, j'ai pas d'éléments que j'ai retrouvé, j'arrive pas à retrouver des articles de journaux ou un jugement. Alors, ils doivent exister parce que plusieurs personnes ont parlé, mais j'ai rien retrouvé, donc je vais pas m'exprimer trop dessus. Mais donc potentiellement, il y avait ce type de maltraitance qui pouvait avoir lieu. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Parce que voilà. On retrouve aussi des témoignages de jeunes qui expriment vraiment avoir très mal vécu hein, leur passage sur l'île. Et ça, encore une fois, je pense que c'est aussi en dehors des actes des éducateurs ou autres. Je pense que c'est très individuel. Parce que même sur une structure où il n'y a pas de maltraitance ou autre, on peut avoir très mal vécu son placement, ce qui est tout à fait normal. Sachant qu'il y a aussi des témoignages à prendre avec des pincettes. Alors, ça, tu garderas si tu veux. Il y a le livre de Marie-Jo Audouard, L'enfant du bagne, qui retrace le témoignage d'un ancien jeune qui a été placé à Tatiou. Je pense que cet... Alors, c'est pas son vrai nom qui est utilisé dans le livre, donc. Je pense que c'est un jeune qui a très mal vécu son placement. Il parle de violence entre jeunes, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Que des éducateurs aient pu être violents aussi, c'est possible, étant donné que bah, ça arrive. Voilà. Mais en fait, je sais pas si c'est son témoignage qui a été déformé de sa part à lui pour inventer des choses encore plus graves, ou si c'est la personne de Marie-Jo Audouard qui a modifié parce que pour rendre son roman peut-être avec un plus fort impact émotionnel, mais il y a des choses qui sont pas cohérentes dans le récit et en fait qui historiquement n'ont pas de sens. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois le vécu qu'on peut avoir qui est tout à fait enfin qu'on peut entendre et qui est propre à chacun. Ça veut pas dire que c'est faux. Mais il y a aussi parfois la vision du bagne. Donc c'est le titre du livre, c'est L'enfant du bagne, et je pense que c'est une vision qu'on a très souvent eue de l'île. Et c'était à une période aussi où c'était, entre guillemets, un peu vendeur de présenter ça comme le bagne, le bagne, le bagne. C'était une période où on reparlait de Belle-Île en mer, par exemple. Donc voilà, ça fait. C'est aussi le genre de choses qui donne aussi envie d'aller lire ou autre. Donc,
Comment et pourquoi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi ça s'est terminé cette histoire qui était devenue collège d'enseignement technique dans les années 80? Parce qu'on m'a parlé d'une fin un peu, des fois un peu apocalyptique où l'île a été laissée à l'abandon, les dossiers des pensionnaires étaient volés dans les airs, enfin ça avait. C'était un peu comme un abandon.
En fait, on sent que la fermeture du centre, elle a été assez abrupte. Je vais utiliser l'expression panique à bord, c'est-à-dire que sur la fin, je l'ai dit tout à l'heure, on a de moins en moins d'orientation de placement. Du fait de la réputation du centre, que c'est difficile, du fait que dans les années 80, on privilégie le milieu ouvert, ou les centres qui sont plus proches des lieux d'insertion. Et on voit beaucoup moins orienté sur les centres fermés. Et on considère que Tatiou, du fait de son insularité, ressemble à un centre fermé. Bien que ce n'était pas le cas, mais bon. Les lieux, on les considère comme trop vétustes et plus adaptés à l'accueil de jeunes. Donc, on va orienter des cas un peu plus difficiles, quand je dis difficile, c'est pas forcément par le comportement, mais c'est parce qu'on ne sait pas trop comment prendre en charge. Ou alors parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Donc on va avoir beaucoup moins de jeunes, beaucoup de professionnels, donc ça n'a plus trop de sens. Donc progressivement de moins en moins de professionnels. Moins il y a de jeunes, moins il y a de prix de journée, donc moins financièrement ça peut tourner. Donc on retrouve vraiment une grosse difficulté financière sur la fin du centre. Dans les rapports de l'association, on voit que à ce niveau-là, il y a une véritable panique. Si bien que on retrouve même la volonté de la part des équipes de Salagosse, qui est devenue vraiment indépendante dans le Gard, d'envoyer des jeunes sur Tatiou pour essayer de sauver le bateau. Hein. Où on sent que on essaie de trouver des solutions, d'où l'accueil par exemple des boat people ou autres, ou de réfugiés, pour essayer que les prix de journée, que les places soient prises, quoi. Pour moi, c'est ces différents facteurs qui vont expliquer la fermeture, sachant que effectivement, sur la fin, dans ce que j'ai pu trouver dans les archives, on prévoit cette fermeture en mettant fin au contrat des salariés. On en garde quelques-uns pour clairement la fin, pour vider le centre. Donc en fait, on n'accueille plus de jeunes progressivement, ils sortent. Il reste quelques salariés pour clôturer. Et en fait, donc Tati Yu ferme en 84. Et un jour, un monsieur qui travaille en centre de loisirs sur le territoire local emmène ses jeunes faire de la voile sur l'île de Tati Yu. Il s'arrête et il connaissait le centre. Et donc il allait jeter un coup d'œil. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que tout était resté en l'état. Et donc les dossiers des jeunes, les dossiers des salariés, etc., tout était ouvert. Et il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient sur l'île, qui venaient dégrader, voler, etc., etc. Et de là, il a prévenu les autorités pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est pas normal. Et ensuite, il y a eu déplacement du préfet, etc. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qui doit s'en charger? D'où, je pense, une drôle de gestion des archives. Moi, pour mon travail, ça a été un peu compliqué, puisqu'une partie s'est retrouvée aux archives départementales, une grande partie se retrouve à Salagosse, donc au centre Louis de Fonds, là où donc il y avait cette annexe qui est devenue indépendante, et où l'association Les Amis de Tati Yu continue de fonctionner. Hein. C'est l'association qui est gestionnaire de ce centre. Et potentiellement une partie qui aurait été conservée dans l'Orne. Mais je n'ai pas réussi à avoir de réponse. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que ça a été en fait renvoyé aux archives départementales. J'en ai aucune idée. Et donc malheureusement, en termes d'archives, bah, il manque beaucoup de choses qui ont dû être détruites. Quand on va consulter des dossiers de jeunes, c'est très particulier parce que ça fend le cœur. Pour moi, de mon point de vue, c'est un déchirement de voir qu'on a des traces de pas sur des dossiers de jeunes, du sable, enfin voilà. Sachant que bah, ça a dû être piétiné, volé, il y a des choses qui ont dû être détruites. Je pense qu'il doit manquer beaucoup de dossiers. Alors, à la fois parce que des jeunes ont dû partir avec, ou ça a été récupéré par les services suivants qui ont poursuivi l'accompagnement, mais je pense qu'il y a des choses qui ont dû être détruites, volontairement ou non, ou du fait de dégradation. Et puis, il y a aussi des choses qui ont mystérieusement disparu, parce que du fait de l'enseignement technique, il y avait des grosses machines sur place. Et apparemment, bah, il y a des machines qui ont disparu, mais comment? Parce que pour aller les chercher... Il faut quand même, en termes logistiques, une sacrée préparation. Donc voilà. Donc une fois que ça a été que l'état du centre a été signalé, ça a été la question s'est réglée. Et puis après, forcément, ça a été repris pour le projet enfin, d'aménagement culturel, etc.
Qu'est-ce qui reste sur l'île aujourd'hui de ce centre? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'il y a des vestiges? Parce que on sait qu'il y avait plusieurs baraquements qui ont un peu disparu, mais qu'est-ce qu'on peut y voir encore?
Alors, bah, dans les lieux, finalement, on peut, quand on s'y promène, les lieux étaient utilisés comme tels. Pardon, je disais, les lieux, les différentes maisons qui peuvent encore exister. Donc, il y avait la maison du directeur, il y avait certains pavillons qui étaient pour les jeunes. Voilà, il y a des choses qui en fait existent toujours aujourd'hui et étaient évidemment utilisées à l'époque. Si on veut retrouver des traces, alors en termes de rénovation, je ne sais pas dans quelle mesure on peut encore imaginer qu'on peut retrouver la trace, mais sur les digues, parce que les jeunes ont beaucoup participé à la réparation en cas de tempête, peut-être qu'on pourrait retrouver des traces. Et ce qui est intéressant, c'est dans la tour Vauban. Alors, au rez-de-chaussée, je crois, dans les cellules, il y a un crâne fait à la peinture en noir. Ça, c'est un jeune, je crois, dans les années 70, il y a la date à côté. Et en fait, quand on monte... Si on regarde bien avec le jeu de la lumière et des ombres, on peut voir un nom d'un jeune avec une date Et je pense que c'est quand ça a été un peu réparé à l'époque, un peu rénové, un jeune a dû laisser sa trace. Donc il faut avoir l'œil pour remonter. Après, il y a eu beaucoup de choses effectivement qui ont disparu. Il y a beaucoup de préfabriqués et puis tout l'espace sportif a complètement disparu également.
Qu'est-ce qui paraît après, a posteriori, après plus de 40 ans de fermeture de ce centre, un peu dingue dans cette aventure qui a duré une quarantaine d'années, un peu moins de 40 ans, en termes peut-être, je ne sais pas, de pédagogique, éducatif, est-ce que c'était si dingue ou est-ce qu'on entend parler de centres éducatifs fermés qui sont un peu de retour ces dernières années? Est-ce que c'était complètement à côté de la plaque ou pas trop?
Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette expérience Tatiou? Beaucoup de choses. À la fois le fait que c'était très singulier dans son essence et en même temps très classique en termes de fonctionnement et de développement. Pour moi, ça a été un lieu très pertinent en réponse à des besoins après la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Très intéressant, évidemment, d'un point de vue de chercheur. En termes de développement du travail social, des expérimentations. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est en fait cette construction avec les jeunes. Je sais pas, je pense pas que ce soit quelque chose que les jeunes, enfin les anciens jeunes, ou à l'époque d'ailleurs, pouvaient avoir conscience, pardon. Mais une véritable construction finalement du métier, des pratiques et du lieu avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui se retransmet concrètement du fait de leur participation au chantier sur place, mais surtout aussi dans toute l'expérience Salagos, où les jeunes ont complètement réaménagé le site. C'était un hameau abandonné, clairement, et ils ont tout reconstruit. Maintenant, c'est un centre qui fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce aux jeunes de Tatiou que ce centre existe. Enfin, c'est fou. Sachant qu'en plus, l'association, maintenant, gère d'autres types de structures, d'autres services, donc il n'y a pas qu'à Salagos, mais tout ça c'est grâce aux jeunes de Tatiou et aux professionnels évidemment. Donc je trouve que c'est très particulier et extrêmement intéressant.
Est-ce que c'est là, on fait un petit pas de côté, mais cette histoire des boat people, parce que c'est vrai que moi j'en ai entendu un peu parler, ça c'est, est-ce que tu peux un peu l'expliquer? Donc on est un peu avant la fermeture du centre, quoi, c'est.
Bah, clairement, sur la fin, on va avoir cet afflux malheureusement de réfugiés un peu partout en France. On va en avoir quelques-uns dans la Manche. Et en fait, la question se pose de où est-ce qu'on peut les accueillir? Et donc, on retrouve des orientations. Alors, je ne veux vraiment pas dire de bêtises parce que je n'ai pas retrouvé encore beaucoup de choses. Je ne sais pas si je retrouverai plus. Mais je crois que c'était par la Croix-Rouge qu'il y avait cette orientation. Et en fait, là, pour le coup, c'est trouver un lieu où on peut les héberger, les nourrir, ils puissent dormir. Il y a la question de la santé en plus, puisque eh ben, quand on arrive sur le territoire français, il faut la vaccination, il faut vérifier qu'il n'y a pas de maladies qui peuvent facilement se contaminer, type la tuberculose. Donc on retrouve surtout un accompagnement santé en fait, dans leur dossier. Très peu de choses au niveau de l'enseignement, enfin de la formation, très peu de choses au niveau éducatif. On a l'impression, c'est très court cet accueil, et on a l'impression que vraiment c'est très temporaire, on donne un coup de main clairement pour leur accueil le temps qu'ils repartent sur une autre structure. On va être vraiment sur cet aspect-là. J'ai pas de notion parce que j'ai pas retrouvé plus que ça, mais j'imagine que ça devait être compliqué en termes de langue, par exemple. Alors, sauf s'ils parlaient le français, hein, du fait du contexte, évidemment. Bon, en fait, les dossiers sur cette période, la fin des années 80, les dossiers sont souvent très vides. Il y a très peu de choses. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça a été directement reversé au service d'accompagnement suivant quand ils ont intégré d'autres structures? Parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas forcément classique d'en faire des copies. Enfin, c'est peut-être pas, non, c'était pas d'ailleurs la pratique d'en faire des copies. Ou est-ce que c'est parce qu'en fait on n'avait pas grand-chose à mettre dans ces dossiers parce que il n'y avait pas grand-chose de fait en termes d'accompagnement, je ne sais pas. Donc voilà, moi dans ma recherche, ça me limite dans mes connaissances par rapport aux données. Il faut savoir aussi que, alors ça c'est pareil, j'ai pas retrouvé de dossier spécifique, mais au moment où on cherchait a sauvé Tatiou de la fermeture. J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu. Donc il y a eu Salagosse qui a voulu envoyer quelques jeunes, principalement issus d'outre-mer, comme ça se faisait beaucoup à l'époque d'ailleurs, de malheureusement d'avoir déplacé des populations d'outre-mer en France. Et il y avait des jeunes qui étaient déplacés en métropole pour venir répondre à des besoins de repopulation et aussi de main-d'œuvre. Et donc il y avait des jeunes qui initialement auraient dû être placés sur Salagosse qui ont été envoyés sur Tatiou visiblement. Mais ça, j'ai pas encore retrouvé de trace exacte. C'est dans des comptes rendus de réunion. Et par rapport à la tentative de sauvegarde de Tatiou aussi, il y avait la volonté de créer un service en milieu ouvert. Sur la fin, les éducateurs et chefs de service, en analysant, et pas que d'ailleurs, mais bon, les équipes voilà, socio-éducatives, ont réfléchi à l'idée d'ouvrir un service en milieu ouvert sur le territoire local pour les jeunes. Parce que vu qu'on orientait beaucoup plus sur des milieux ouverts, et c'est vrai qu'à la sortie de Tatiou, bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en sort? C'est vrai qu'un lieu de transition aurait pu être très intéressant, et je pense que ça aurait, si financièrement ça avait été possible, ça aurait été une bonne solution. Mais le contexte économique de l'association a fait que ça n'a pas pu se faire. Ils n'ont pas pu donner suite.
Est-ce que peut-être tu as une anecdote ou un souvenir ou quelque chose que je pense qu'il pourrait être intéressant de partager sur ta recherche et tes 4 ans de thèse?
Sur ma recherche pure et
Non, mais
dure.
ouais, je sais pas, quelque chose de
Ou un truc
qui t'a marqué, un
croustillant.
peu croustillant, un peu. Ouais.
En fait, il y a deux choses que. Qui je retiendrai de. Enfin, deux choses. Il y a à la fois la partie purement liée à ma recherche, moi, en tant que chercheuse, où je trouve ça super, parce qu'en fait, en travaillant sur le centre, ça m'a permis de me rendre compte, pardon, que. J'aime pas dire ça, parce qu'en tant qu'historienne, je ne devrais pas, mais l'histoire se répète. C'est pas vrai. Mais j'ai retrouvé des choses très très comparables et on s'en est rendu compte avec les professionnels aussi de Salagosse. C'est-à-dire qu'en fait, en présentant l'histoire du centre de Tatiou, on s'est rendu compte que les problématiques, les situations, etc., se répétaient ou étaient sensiblement similaires, puisque sur Salagosse, on est dans un hameau vraiment reculé dans la montagne des Cévennes. Donc il y a cette idée quand même, même si c'est pas insulaire, d'éloignement, de besoin de faire l'aller-retour en ville, de difficulté d'avoir des professionnels qui restent, de turnover, de public qui change et donc de besoin de réadaptation à une période de risque de fermeture. Et en fait, eux, ils ont réussi effectivement, d'ailleurs aussi grâce à la multiplication des services, à sauver le centre et l'association. Donc voilà, ça je trouve ça hyper intéressant. Et la deuxième chose que je retiendrai, qui m'a plu dans mon travail de recherche, c'est de pouvoir voir la vie des jeunes en fil des décennies, de mettre ça de prendre un peu de recul et de voir que les questions, bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon dans l'histoire de la jeunesse, mais les questions et la vision de la société sur la jeunesse se répètent aussi. Avec en fait dans les années 50-60, tout d'un coup, soudainement, mon Dieu, surtout dans les années 50, les jeunes, c'est terrible, ils deviennent tous violents, et c'est à cause du cinéma, et c'est à cause de tatati, des balles, et en fait, bah, l'histoire se répète. Et dans les trajectoires de vie, mais aussi dans l'expérience sur Tatiou, il y a tellement d'anecdotes qui sont très chouettes à lire, parce qu'il y a des choses, bah, évidemment, qui sont tristes ou négatives, mais en pouvant consulter leurs dossiers, on retrouve des bribes de leur vie quotidienne, de leurs ressentis, parce qu'on peut retrouver aussi leur courrier, enfin leur courrier, plutôt ce qu'ils ont pu recevoir. Et du coup, c'est très riche, c'est pas des choses qu'on peut forcément avoir facilement en histoire. En histoire contemporaine, c'est plus facile. Mais là, d'avoir vraiment les ressentis des personnes à travers ces documents, c'est intéressant. On peut retrouver des petites amourettes, on peut retrouver des rapports même de fugue ou autres, mais qui sont pas forcément négatifs. C'est très intéressant les liens avec les familles, ou par exemple leur passion, leur passe-temps, leurs loisirs. Et donc, ça rend beaucoup plus humain aussi, je trouve, l'histoire. C'est-à-dire que là, on peut s'imprégner quand même. Alors évidemment, moi, en tant que chercheuse, je dois avoir du recul par rapport à ça, mais ça renvoie des choses très, très humaines de ce travail.
Très bien, merci. Merci Léna. Je
Ben, de
pense que
rien.
j'ai pas mal de choses.
J'ai beaucoup bégayé.
Non, bah non, c'est très clair, attends.